Rencontre avec les poètes de chez nous, un rendez-vous hebdomadaire avec la poésie et nos poètes de Martinique sur Campus FM 96.7, une émission présentée et animée par Patrick Matelier-Guinlay. Et aujourd'hui, chers auditeurs, apprêtez-vous à recevoir un coup de lélé. Parce que nous allons parler avec Jean-Marc Rosier, l'auteur de Lélécou. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir Patrick.
Alors Jean-Marc, tu es né à Fort-de-France.
C'est ça, oui.
En 1976. Et tu poursuis des études de lettres modernes. Une maîtrise en lettres modernes, ici même,
oui,
dans ce campus, ainsi qu'un DEA d'histoire.
C'est ça.
Donc tu es un ancien du campus
De
Schœlcher.
Je précise, un très beau campus, hein, il faut le dire. Hein.
Ah, ben voilà qui va faire plaisir à pas mal de personnes. Alors, en l'an 2000, tu remets ça, mais... On va en reparler par la suite, en obtenant une licence créole.
Oui, oui, c'est ça.
Mais le créole t'intéressait déjà, puisque je vois que en 1999 sort ton premier roman, La vie chimérique, en fait, qui est une. C'est un roman. Que tu as écrit, mais que tu as présenté au prix Sonny Ripper de l'association Bonzil Créole.
C'est ça.
Et qui a obtenu le premier prix.
Voilà. En 99, devant mon poste de télé, bon, j'ai eu la chance de voir quoi cette publicité qui parlait de ce fameux prix Sonny Ripper qui existait déjà auparavant et des gens quand même assez importants avaient eu l'occasion de le prendre, de l'avoir. Et je décide d'y participer. Mais comment ça arrive entre guillemets un peu, je dirais un peu par hasard, grosso modo. Je raconte une petite histoire assez souvent. C'est celle en particulier de mon cousin, d'un de mes cousins, quoi, qui s'appelle Pascal Rosier, et qui est entre guillemets, comme on dit ici bien, un négropolitain. C'est-à-dire qu'il est né en Allemagne, précisément. Il a vécu quelques années en France. Il est en ce moment au Japon. C'est quelqu'un qui voyage, c'est une sorte d'aventurier, spécialiste d'économie et du japonais, etc. Et en 98, ce cousin Pascal Rosier, il arrive en Martinique avec un livre, comment dirais-je, étrange, puisqu'il s'agissait d'un livre en créole, en l'occurrence, le Bitakowa de Raphaël Confiant. Ah.
Oui, justement, j'allais te poser la question, comment t'es venu cet amour du créole, comment quelqu'un ayant une maîtrise de lettres modernes en vient à écrire, à publier son premier roman, parce que c'était ton premier roman, en langue créole.
Mais justement, c'est-à-dire que quand je vois ce fameux cousin avec ce fameux livre, tout d'abord je suis très étonné, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi c'est une sorte d'ovni, un livre en créole c'est inconcevable, je n'en avais jamais vu précisément, et en 99 hein, je dis bien. Et ce cousin, chose encore plus étrange, il est polyglotte, je le signale, il maîtrise le créole sous le bout des doigts. Il le maîtrise carrément. Et il connaît le Bitakowa par cœur. Il connaît le début, il connaît le milieu, il connaît parfait. Et il me dit, mais lis un peu ce livre, regarde comment il est magnifique, etc. C'est un bon livre, je te le conseille. Et sans doute que j'ai été influencé par ce cousin. Et j'ai lu ce livre, effectivement, et j'ai été... ça a été une rencontre, véritablement. Et je me suis dit, mais tiens, je vais entre guillemets écrire un livre en créole alors que j'écrivais déjà en français. Je m'essayais en tout cas à l'écriture en français et je décide en 99 d'écrire un livre en créole. Et comme par hasard, il y a ce prix là, le prix Sonny Ripper qui tombe. Je décide d'envoyer le manuscrit mais vraiment au dernier moment. Et puis voilà, avec beaucoup de surprises, je l'avoue, j'ai été...
Un coup d'essai qui fut un coup de maître.
Voilà, c'est ça, apparemment, un coup d'essai qui fut un coup de maître. Et voilà, quoi. Donc le livre La vie chimérique a été accepté, a été nominé.
De quoi ça parlait, La vie chimérique, comme ça, voilà. En résumé?
En fait, je me suis intéressé à un personnage qu'on retrouve en quelque part dans Lélécou, puisqu'il s'agit, ce n'est pas le même, mais c'est une sorte, comment dire ça, Lélécou, je dirais, c'est une sorte d'avatar peut-être de ce personnage, qui s'appelait Jonas. Et Julien, excusez. Donc il s'appelait Julien, ce personnage. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est parce que c'était pour moi une conscience malheureuse, quoi. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa place dans cette existence. C'est quelqu'un qui vivait à la marge, entre guillemets, de la société. Et il n'arrivait pas vraiment, c'est le mot, à s'intégrer. Mais s'intégrer au niveau, c'était quand même quelqu'un, un enseignant, bon, peu importe sa fonction publique, en tout cas, mais existentiellement, il n'était pas à l'aise. Et c'est le vertige, justement, de ce personnage qui m'a intéressé et que j'ai essayé d'écrire dans ce livre La vie chimérique, qui était déjà un livre nihiliste en germe, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a un côté autobiographique? Parce que tu vas être enseignant.
Oui, ben effectivement, je...
Est-ce que c'est un développement de toi qui aurait pu être une frontière de toi que tu décrivais là?
Non, je n'irai pas à dire cela, quoi. Je ne vais pas le dire. Seulement, bon, je vais préciser une chose, c'est que comme Julien et puis comme Jonas, parfois j'ai souvent eu ce sentiment un peu étrange de n'être pas tout à fait à l'aise. En tout cas, je sais pas, comme s'il y avait une sorte de questionnement, quoi, une sorte d'angoisse existentielle parfois, d'inconnu. Et face à la nature elle-même, face au monde, parfois je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Et je me pose des questions, précisément. Des questions qui, d'ordre philosophique, parfois, en tout cas existentiel, quoi. Bon, qui suis-je? Bon, certainement, hein. Bon, mais je viens de mes parents, c'est mes parents qui me l'ont fait, mais surtout, la question de l'humanité, quoi. Qui sommes-nous, finalement? Et où allons-nous? Les questions que devons-nous espérer, quoi. C'est ça, quoi. C'est très jeune, je me suis toujours posé ces questions. Sans doute est-ce pour cela que, j'ai été un peu ici assez intéressé également par, non pas par la religion, mais la question des croyances, entre guillemets.
La spiritualité.
La spiritualité, oui. Je me dis que dans ce bas monde, je ne peux pas être athée. Je ne prends pas un parti pris de religieux, hein. Quelle que soit la religion, c'est pas ça le problème. Mais ce qui est intéressant de noter, à mon sens, c'est qu'il n'existe pas de civilisation athée. Je ne sais pas si ça existe sur Terre. L'être humain s'est toujours posé des questions. Et dernièrement, en lisant un journal de vulgarisation scientifique, j'apprends que les scientifiques, les chercheurs ont localisé une molécule de la foi dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? On verra bien.
Tu deviens donc président au sein de l'association Banzil Créole en 2005.
Mmh. Oui, donc tout de suite après le prix, je me suis rapproché effectivement des gens de Banzil Créole et avec qui j'ai travaillé, avec lesquels j'ai travaillé pendant de longues années, hein. On a monté certains projets, on a travaillé également sur la dictée créole, notamment dans le cadre de l'association ADK. Et en 2005, effectivement, j'accepte la présidence de Banzil. Voilà. Pour la quitter un an après, précisément. Voilà.
En 2004, tu publies Lélécou.
Et oui.
Alors, tu es enseignant au CFA de Ducos, prof de français et d'histoire. Mmh. Et tu réédites Lélécou. Enfin, tu crées une édition, K-édition, Puis tu fais partie aussi d'une association avec Alfred Alexandre.
C'est ça.
Donc, Mélange Caraïbes. Caraïbes.
Mélange Caraïbes, oui.
Qui est une association culturelle à but large.
Voilà, c'est ça. C'est une association à vocation culturelle, oui. Mais pour revenir sur les coups en 2004, ce livre, moi, était l'occasion... peut-être de retravailler sur le sujet de dans la vie chimérique.
En fait, c'est un prolongement.
C'est
de...
un prolongement, oui. Mais dans ce cas, mais ça a été une sorte de nouvelle réflexion apportée au sujet, parce que bon, entre temps, les années ont passé, et de 99 à 2004, ma pensée s'est enrichie un peu plus, et ça m'a permis de d'écrire ce livre qui n'est pas un roman, mais précisément qui est plutôt, je dirais, une sorte de récit philosophique.
Alors, justement, bon, déjà, je vais te poser une question. La vie chimérique, c'était édité comment ?
La vie chimérique, le manuscrit appartient à l'association Banzil Créole.
D'accord.
Et par contre, l'Éléco a été...
Mais ça a été édité grand public ou...
Non.
La vie chimérique, non.
Non, malheureusement, il y a d'après ce que j'ai pu comprendre, les fonds... Il n'y a pas eu, bon, il y a eu des problèmes.
On sait que à partir du moment où on dit langue créole, les difficultés sont multipliées par deux ou trois au niveau de l'édition.
Et malheureusement, effectivement, c'est pas vendable, comme on dit.
Alors, tu traduis aussi une nouvelle de Catherine Mansfield, donc de l'américain.
C'est de l'anglais de la Nouvelle-Zélande.
De l'anglais de la Nouvelle-Zélande.
Oui. Mais bon, c'est un anglais pas très différent, bon, avec des spécificités, des sortes de régionalisme, précisément.
Et ça paraît sous le titre Lancelin.
Lancelin. En fait, c'est la nouvelle At the Bay de Catherine Mansfield, qui est cette auteure néo-zélandaise qui a mené la vie qu'on connaît et qui est morte assez jeune quand même. C'était une sorte de, je dirais, j'ai pas envie de faire la comparaison avec Françoise Sagan, peut-être que je vais me tromper, mais c'est quelqu'un quand même qui a brûlé les chandelles, comment on dit,
la chandelle par les deux bouts.
Donc c'est quelqu'un qui a notamment fréquenté Virginia Woolf, toutes ses sommités, et en fait elle a marqué la littérature anglo-saxonne, justement, par ses nouvelles et ses textes fondamentaux.
Alors, on va revenir à Lélécou. Les gens peuvent s'interroger, parce que ces rencontres avec des poètes de chez nous, pourquoi j'ai décidé de recevoir un romancier. Je l'ai fait parce que je trouve que il y a un parti pris poétique dans ton langage. On va en discuter. Alors Lélécou, déjà le titre, Lélécou.
Lélécou, eh ben oui, un titre qui a fait couler beaucoup de salive, pour ne pas dire beaucoup d'encre. Non, parce que
Kassaye.
Voilà, la question au départ, c'est qui Kassaye. Donc c'est ça précisément. Encore une fois, la réception du livre, je dirais qu'elle a été mitigée. En tout cas, les gens, les spécialistes, entre guillemets, l'ont bien reçu. Mais il est vrai que, je ne vais pas le cacher, hein, certaines personnes qui ne sont pas justement, instruites au créole, n'ont pas compris véritablement le livre parce qu'elles n'ont pas su le lire. Ce qui est totalement logique. Il faut aujourd'hui recevoir une formation, entre guillemets, pour lire et écrire le créole.
C'est un livre qui est riche de termes et de vocabulaire, pas forcément toujours en usage, pas forcément non plus beaucoup utilisé.
C'est ça. Déjà, le terme Lélécou lui-même, c'est un terme connu, mais très peu connu. Je dirais même mal connu.
Ça n'est pas un terme inventé.
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. D'ailleurs, dans Lélécou, on peut trouver, entre guillemets, la racine Lélé.
En coup de lélé.
En coup de lélé, c'est le fameux bois lélé, comme on dit.
Oui.
Donc en coup de lélé, Lélécou précisément, je l'ai entendu de la bouche d'une personne très âgée également. Et ce mot signifie en fait situation déterminée, confusion, marasme. C'est un terme polysémique. Il admet plusieurs sens. Et ce qui est intéressant, c'est que...
Un espèce de chamboulement.
Voilà, c'est ça, de chamboulement. Mais
un coup de tourbillon, quoi.
Voilà, une sorte de vertige, de descente dans le vertige, quoi. C'est ça. Et on est happé par la spirale, d'une certaine manière. C'est un peu ça, le Lélécou.
Si tu devais traduire en français, on pourrait, par analogie, peut-être avec le titre d'un film célèbre, appeler ça Vertigo.
Vertigo, et même pour faire l'analogie avec la littérature, je pense à la nausée de Sartre.
La nausée, oui.
La nausée de Sartre, mais également à la chute de Camus.
Un mélange entre la nausée de Sartre et la chute de Camus.
Ce n'est pas tout à fait la nausée, ce n'est pas la chute. C'est à la fois la nausée, c'est à la fois la chute, c'est le vertige, c'est la descente aux enfers, c'est la confusion, c'est le marasme, c'est le maelstrom.
Cette sensation que l'on a parfois en s'endormant de tomber en arrière dans un entonnoir sans fin.
On pourrait le dire, mais c'est précisément la descente. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison qu'on verra peut-être tout à l'heure, si on a le temps d'en parler, le personnage, son nom... nous apprend beaucoup justement sur le sens à donner au livre, quoi, précisément.
Quel est son nom ?
Jonas. Jonas, c'est ce fameux... Avalé par la baleine. Ce personnage qui était dans un bateau et qui demande au marin de le jeter dans l'eau afin que la tempête se calme et qui tombe dans les abysses et qui est avalé par la baleine.
Alors tu pourrais peut-être nous régaler d'un petit extrait.
Bon, ben j'ai choisi le premier l'incipit, en fait, le début du livre. Je vais essayer de lire avec le ton. Ou pas j'en mets comprendre, la déveine t'est qu'à vous garer un homme comme ça. On y prend toute coille et puis fait seille à terre quand elle en bigomier pria dans l'âme l'emmet démonté. Ou pas j'en mets comprendre, les lécois t'est pévaré qui n'en mou, qui tout corps, mettez toutes affaires ou à la voirie. Dilapider tout bien, on fait éclit et puis tout souvenir, et puis profonder dans toute la cognie l'esprit, calter coloco totoyeta là. Ou t'es meilleur comprendre comme quoi c'est biclin d'un lan ou t'es ni calimé en didantio, pièce nordée malvinie, pas t'épé jamais rivé, fait flamme d'ife et balocher. Toute l'idée où t'es en l'homme ton nez, jamais pièce zingazing, pas t'es caïri si quatre bandés, dit fait où t'es ouajou où on est coiffé, allez en t'en sans lait. Allait et titant l'ennui de Camarasa tant beau matin. Jonaska, la vie ou coulée, qu'on l'avala sans pangal d'ouvre un soleil. Et puis mi ou les tchètes n'en galilée l'esprit ou n'en soukou en la vie des biels.
Alors, en l'autre terme, que le petit créolophone que je suis, créolophone d'adoption, parfois a du mal à comprendre. Alors, quand même, tu as pris la précaution, à la fin du livre, d'inclure un lexique.
C'est ça.
Un lexique, justement, peut-être pour les mots les plus difficiles et les termes les... Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette idée d'écrire avec des termes aussi recherchés? Est-ce qu'il y a un travail préalable? Est-ce que c'est une volonté de ta part que d'essayer de faire une démonstration dans le bon sens du terme une exploitation de toutes les sonorités, de toutes les richesses de la langue créole, à la fois peut-être en allant chercher dans le passé avec les grands mounes, et puis aussi peut-être en essayant d'exercer ton droit de néologisme d'auteur en créant peut-être des combinaisons de mots pour c'est là où je pense que ta démarche est aussi poétique, hein. C'est pour ça que j'avais à cœur de te recevoir. Peux-tu nous expliquer ça?
Bon, ben tout d'abord, bon, je dirais qu'il y a peut-être il faut compter deux ou trois niveaux. D'abord, ces mots, j'ai commencé par en lire certains auteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Raphaël Confiant, etc. Mais également des gens comme Franck Etienne en Haïti. Et puis surtout, Monshoashi.
Ah.
Monshoashi, qui a écrit, qui est un poète, hein, je précise, des œuvres comme Nostrum, Manteg, Belzobel.
La lecture de Nostrum a fait que j'ai eu envie d'écrire dans la langue créole. C'est la lecture de Nostrum. Donc je salue Monsieur Monshoashi, Maître Monshoashi.
Donc tous ces auteurs-là ont enrichi, parce que j'ai remarqué qu'en fait ils utilisaient, en particulier Monshoashi, confiant à tous ces gens, un langage quand même vraiment littéraire. On avait l'impression, il y avait une intention, en tout cas le désir de sortir de l'oralité et de toucher la littérature. Quoi. Précisément, c'est ce qui a été fait. Et ça a été ma démarche également personnelle. Je me suis dit, écrire en créole, déjà, c'est une aventure en soi, quoi. Mais également, s'il faut écrire en créole, il faut essayer de bien écrire. Quand je dis bien écrire, c'est-à-dire essayer de faire de la littérature, précisément. Et ça a été mon objectif principal. Ensuite, d'abord cette démarche de lecture. Ensuite, j'ai fait également un travail de recherche. Déjà à l'oreille, en écoutant les gens autour de moi, en notant. En recensant également certains mots, et puis en allant compulser des dictionnaires, aussi bien des dictionnaires martiniquais, guadeloupéens, haïtiens, etc., en allant dans certains pays des îles à côté comme Sainte-Lucie, Dominique, en entendant les gens parler dans leur langue, dans le créole, en tout cas le créole, et puis rassembler tout ça. Donc j'ai fait une sorte de petite lexique, quoi, grosso modo, qui fait à peu près une centaine de pages, un peu plus. En tout cas, il y a des milliers de mots qui sont consignés avec leur origine, hein, précisément. Et bien sûr, en étudiant cette langue-là, la langue créole, c'est-à-dire son histoire, savoir que c'est une langue, comme on dit, d'origine, à plusieurs origines, c'est une langue métisse créole. Et ça m'a permis de me rendre compte également que beaucoup de mots qui existent dans le créole viennent du français. Donc, je me suis interrogé également sur certains mots.
Et du vieux français.
Et du vieux français, surtout. En particulier, bon, le mot « chile », qui a retenu précisément mon attention, parce que tout le monde pense que ça vient du français reculé, mais en fait ça vient d'un terme maritime assez ancien qu'on retrouve toujours dans le Robert, qui, à savoir culé.
Culé.
Et qui signifie quand un navire...
Ça n'est pas un gros mot, je vous rassure tout de suite. Hein.
C'est ça, voilà. Et d'autres termes également qui... Donc il y a eu tout ce travail de recherche, et par la suite...
Comme serré d'ailleurs.
Voilà, c'est comme serré justement.
Serré, caché, ce qui est le premier sens français du mot serré, c'est caché, dissimulé, mettre à l'abri.
Mettre à l'abri, c'est ça. Voilà. Et on le retrouve également dans certains textes anciens, notamment La Fontaine. Ou...
Surtout Molière.
Molière, voilà, Tartuffe. J'allais le dire. Dans le Tartuffe précisément.
Serrer ma R avec ma discipline.
Donc, il y a eu tout ce travail au préalable.
Mm-hmm.
Et puis, bien sûr, il a fallu que je réfléchisse au personnage, à l'univers en particulier, dans lequel j'allais l'intégrer. Et les coups, en quelques mois, est né.
Alors, tu n'as pas peur que d'aucuns qualifient ta démarche et ton écriture d'élitiste? Du fait justement de cette recherche approfondie, et puis aussi t'as dû entendre des critiques comme parce que c'est vrai que il y a des gens qui n'aiment pas ça, il n'est pas séant de mélanger les créoles.
Justement, mais ce n'est pas...
Alors, bon, c'est vrai que dans Monshoashi, on s'aperçoit qu'il y a des termes haïtiens, bien des sûr. Termes guadeloupéens, mais absolument. Il y a une frange de gens puristes qui s'interdisent ce genre de mélange.
Mélange, oui. Et pourtant, c'est ce mélange que je trouve intéressant, parce que précisément...
Alors, pour toi, il y a une langue créole avec sa diversité, bien sûr, mais pas plusieurs langues créoles.
Non, il y a plusieurs, entre guillemets, comme on dit... dialecte, c'est-à-dire qu'il y a...
je n'aime pas ce mot.
Non, mais je dirais que le dialecte tel qu'on l'entend en linguistique, c'est-à-dire il y a une langue, certainement, et il y a des dialectes, bon, le dialecte créole, peu importe, mais en tout cas, donc ce qui peut nous amène à dire qu'effectivement, il n'y aurait pas un créole, mais des créoles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le français, Le créole français, guadeloupéen, haïtien, etc., ce sont des créoles dits à base lexicale française. Donc, c'est pas comme si j'avais...
Guyanais, réunionnais, Lyonnais,
etc.
Le cajun.
Le cajun, effectivement. Il y a des créoles à base lexicale anglaise, néerlandaise, etc. Mais ce sont précisément ces créoles-là qui m'intéressent. Et on constate qu'ils se ressemblent énormément. Ces créoles-là se ressemblent. Et donc, pour moi, effectivement, certains mots... on peut penser qu'on peut les assimiler à des sortes de greffons, comme on fait en médecine. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui peuvent être greffés au créole martiniquais et d'autres pas. Je pense en particulier à un mot haïtien qui signifie mystérieux, mystère en tout cas, c'est un terme qui est relatif au vaudou haïtien, c'est le mot kangeyanga. Bon, il est vrai que ce mot, les sonorités de ce mot ne se prêtent pas précisément au créole martiniquais.
Ça sent l'Afrique, ça.
Ça sent l'Afrique, effectivement. On pourrait le transformer, on pourrait peut-être lui donner une couleur un peu plus locale. Mais selon moi, ce mot-là, je ne vais pas l'utiliser.
Voilà.
Voilà. Et puis, dans mon écriture, en fait, l'accent est mis précisément sur ce que j'appelle l'utilisation des mots existants, précisément. Donc, dans ce cas, je me fais souvent archéologue, spéléologue, je descends dans les profondeurs, justement, j'essaye d'aller dans les recoins, précisément, dans la mémoire des gens, essayer de faire remonter à la surface certains mots oubliés, et puis les réutiliser, les réactualiser, faire en sorte qu'ils soient usités de nouveau. Et tu parlais tout à l'heure de néologisme, et j'ai presque envie de dire, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, j'utilise très 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 rarement les néologismes. Il y en a vraiment dans les lécous, il y en a très peu. Il doit en avoir 3 ou 4, pas plus. Il y en a un en particulier, c'est le mot « rarasonnet » que j'ai formé, et qui veut dire « retentir, répercuter ». On peut le comprendre très aisément, la racine « rara », en rara, la semaine 7, c'est quelque chose qui se répète. Et sonner, le verbe sonner, donc c'est un son à répétition. Donc répercuter, retentir, etc. Résonner. Donc le mot lui-même, le sens, on ne se heurte pas au sens, parce que si on analyse précisément ce mot, si on se penche sur les significations respectives des deux mots, on se rend compte qu'on peut comprendre ce mot. Voilà.
Alors, nous allons peut-être avoir une petite pause musicale. Tu es un grand amateur de jazz,
oui.
Donc je crois que c'est Coltrane,
voilà, c'est ça. C'est surtout
John Coltrane, le grand maître, John Coltrane.
C'est toute cette période free jazz, quoi, des années 60, et John Coltrane, pour moi, c'est le, comme tu disais, le maître.
Alors pourquoi Coltrane ?
Coltrane, un grand.
Un grand.
Un grand, un très grand, je dirais. Coltrane également, je l'ai rencontré, en tout cas ma rencontre avec lui, ça s'est fait à Paris, précisément, où j'y étais. Et j'avais un ami, un féru de Coltrane, et qui m'a initié, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas l'habitude d'écouter cette musique, quoi, précisément. Ce jazz-là en particulier, et je découvre John Coltrane, le père, entre guillemets, pas le père, puisqu'il y a eu des gens comme, comment il s'appelle, Eric Dolphy, Sonny Rollins, comment il s'appelle le type
Oui, mais enfin, les choses se sont beaucoup particulées autour de Coltrane.
De Coltrane. Hein. Voilà, et je découvre John Coltrane, et pour moi, ça a été la rencontre, quoi, fondamentale. Et justement, le morceau qu'on vient d'entendre, qui s'intitule, il vient de l'album Giant Step. Deux mots sur Coltrane précisément. C'est quelqu'un effectivement qui a eu au tout départ une vie quand même assez rocambolesque.
Et comme la plupart des jazzmen de cette époque.
Et il jouait en particulier avec Miles Davis. Et la réputation de Coltrane à cette époque n'était pas des plus belles. Et en 1960, il sort Giant Step, pas de géant. Pourquoi ? C'est parce que il a réussi à faire un pas de géant, mais en lui-même précisément. À cette époque, il se droguait, il était accro aux drogues dures, et il avait besoin de s'en sortir. Et comme Dieu merci pour lui, il avait une cousine qui s'appelait Cousin Mary, Marie, elle s'appelait Marie. Et il y a dédié un morceau justement qui s'appelle Cousin Mary, où il rend hommage à cette cousine qui l'a aidé à sortir de l'enfer de la drogue précisément, parce qu'elle l'a séquestré, précisément c'est le mot. Elle l'a enfermé dans une chambre et lui a dit « Oupaka sorti là ». Je traduis en créole. « Oupaka arrêtez là ». Et elle l'a aidé à se purger quoi, précisément de la drogue, et il a pu s'en sortir. Quoi. Et après ça, après cette aventure, il sort Giant Step en 1960.
Donc le rapport avec les coups, c'est cette descente dans l'abîme.
Voilà, c'est ça, c'est cette descente dans l'abîme. C'est Coltrane, un peu comme mon personnage, il a sondé les abysses quoi, du néant, quoi, précisément. Il est descendu sous terre, vraiment, très 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 bas, également très profondément dans l'eau, un peu comme Jonas, dans les abysses. Et il arrive à s'en sortir, Coltrane. De même que le Jonas biblique, il s'en sort. Mais mon personnage...
Mais ton Jonas ne s'en sort pas.
Mon personnage ne s'en sort pas. Pourquoi ? Parce que... C'est un personnage nihiliste. Et je pense que le nihilisme est devenu en quelque part le destin précisément de l'homme moderne. Quoi. Et comment ? C'est parce que il y a certains symptômes du nihilisme qu'on constate. Et justement, il y a un philosophe qui s'appelle François Ewald qui en a parlé en disant que l'individu s'applique seul contre tous et contre tous à revendiquer finalement son unicité. L'individu règne en maître, les idéologies collectives, en particulier la religion, etc., ainsi que les valeurs sont en crise. Donc la science, ce qu'on appelle les technosciences précisément, domine, et l'individu écrasé par la société moderne, d'une certaine manière, mais également l'écologie, souvent, maintient ce qu'on peut appeler la pression quoi, du catastrophisme. Quoi. On est aujourd'hui dans la peur, quoi, précisément. Et mon personnage, c'est un nihiliste par excellence. C'est quelqu'un pour qui la vie ne mérite pas d'exister, précisément. Et au vertige, quoi, en tout cas aux illusions de la religion, qui n'existe plus puisque Dieu est mort, il le proclame précisément ni Dieu ni maître, il préfère justement...
C'est un anarchiste.
C'est pire qu'un anarchiste. Parce qu'un anarchiste, finalement, il s'inscrit dans la société. Il est contre cette société, mais il essaye de refaire une société en la détruisant. Mais le nihiliste, au contraire, refaire la société ne l'intéresse pas. Reconstruire sous les cendres, sous les ruines, ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la tentation du néant, quoi, précisément. C'est le rien. Et mon personnage, c'est ça.
C'est presque une démarche punk.
Tout à fait. Oui, on pourrait le dire. C'est ça. Une démarche, en tout cas, punk. Pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est en ce sens que j'ai traité. Quoi,
Mais d'où as-tu tiré ce personnage, justement ? Parce qu'on pourrait dire que Lélékou serait une sorte de tentative de description sociologique un peu d'une certaine forme de dérive de la société en Martinique. Ça se passe en Martinique. Mais d'où sors-tu ce personnage qui ne ressemble finalement pas à grand monde
Justement, ce personnage, pour moi, il s'inscrit précisément dans ce qu'on peut appeler une certaine modernité de la société. Pourquoi ?
Parce que... C'est plus un personnage symbolique, en fait.
Voilà, c'est un personnage symbolique. Et l'univers que je décris, c'est pas un univers réaliste. C'est un univers, entre guillemets, fantasmé. L'univers de Lélékou n'est pas la Martinique actuelle, précisément.
D'où, encore une fois, une démarche poétique, quelque part.
Poétique, littéraire. Mais il y a un but, hein. C'est pas fait gratuitement. Mm-hmm. C'est un peu également le destin de la langue créole, précisément.
Aha.
Montrer que cette langue-là, en tout cas, est en train de connaître une sorte de descente, paradoxalement, hein, alors qu'on en parle beaucoup. On a l'impression qu'aujourd'hui, elle est dans les radios, elle est dans les médias, on est dans la publicité, et pourtant cette langue-là est en danger, précisément. Elle connaît, elle peut connaître une sorte de descente dans les abysses, précisément. Pourquoi ? Parce que la langue créole souvent cohabite avec avec l'habitation. Et la société d'habitation s'est effondrée. Aujourd'hui, elle n'est plus dans ses marques. Elle n'a plus ses repères, précisément. Et c'est pour ça qu'on ressent le décalage avec certains, comment dire ça, c'est pour ça qu'on peut croire qu'il y a une sorte de décalage entre une certaine langue créole de la langue de l'habitation et la langue créole du monde moderne. Et le créole de l'Elekou s'efforce en tout cas de décrire un créole moderne, quoi, et non pas le créole de l'habitation. Donc les lecteurs qui ont l'habitude de se référer à des repères de l'habitation, ils sont désaxés en lisant l'Elekou parce qu'ils ont l'impression de ne plus s'y retrouver, quoi, précisément.
Et c'est-à-dire que tu essayes de faire un travail, le créole étant une langue qui commence à prendre ses marques, puisqu'elle commence à s'installer dans des règles fixes de grammaire, de d'écriture. Et toi, tu viens un peu comme pour faire un travail de fixation de quelque chose dans la littérature, essayer de, justement, puisque nous ne sommes plus dans le monde qui a prévalu pour la création de la langue créole, ce monde de l'habitation, tu essayes de faire un travail de trouver de nouvelles marques à la langue créole.
C'est ça.
Mais des marques littéraires.
Littéraires, exact. C'est-à-dire, dans l'habitation, le créole était oral. Je vais le dire comme ça. Il s'exprimait de manière orale. Aujourd'hui, hors de l'habitation, l'habitation étant morte, quoi, c'est effondré. La langue, pour perdurer, il faut qu'elle s'inscrive dans d'autres cadres. L'oralité ne convient plus totalement au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes il faut fixer les choses, effectivement.
Un gage de durée aussi, peut-être.
C'est un gage de durée, mais non pas fixer ce qui a été fait, ce qui a été dit. Non pas fixer peut-être, ne pas faire une sorte de photographie différée de créole qui aurait existé.
Non, mais la mémoire des créateurs.
Mais voilà, c'est ça. C'est non seulement
les créateurs comme reflet de leur société,
précisément. Et puis également, montrer que cette langue évolue. Donc toute langue a vocation, toute langue évolue précisément. Donc ce que mon projet c'était cela, c'est non seulement d'utiliser certains mots qu'on utilisait avant, mais non plus de les utiliser tels quels, mais de les investir dans notre monde actuel, quoi, dans notre réalité linguistique actuelle, quoi, précisément.
Redonne-nous un petit exemple.
C'est un beau matin, c'est l'Eléa Madame Mou qui a râlé les dridons en l'air pour faire lever. Je dis à l'idée du bout pour aller travailler pour qu'on laisse pour une pièce tout bonnement. Où c'est l'air était là, qu'a chauffé qu'à bonne l'an, juste en temps, bout va votre lit. Juste en temps, fait tant virer mettre l'ennui hier au soir, où t'es là même où t'es commencé là. Où c'est l'air était là, vloppé en l'air même, à coquiller qu'on t'y m'emmaille devant la vie. D'après moi, rêve là pour qu'on bout. C'est l'olé manqua l'olé en dingue, tout léger, qu'à l'endoyer, tout potrisé, le cancagnant, qu'à volvoté, quand elle pifeille pied-bois avant qu'à flitiger. Poter, sipoter, monter, descendre, l'emmanier ses volants brinzing, en tout pinaille, qu'à balatounaille, qu'à fait solibo, qu'on zouelle en mi-temps écobel, soleil qu'à lever. Ni longtemps où j'en déroule son mail là, mais c'est rôle ou qu'a fait rôle couillon et l'esprit. Fait comprendre comme quoi finissement rêve là, bichou ma couenne. Comme quoi, c'est pourquoi à présent rideau des yeux qui est ouvert. Rêve la belle, rêve la chute, rêve la doux moment, rêve la qu'à délonger devant moi en la vie sans vieux rêve, sans chachetrain, sans pièce mauvais vivant, mauvais sentiment.
Alors, je vais poser une question malicieuse. Mais en fait, tu m'as déjà répondu précédemment. Mais tu parles pas comme ça quand tu parles créole en Martinique, parce que les gens auraient du mal à te comprendre. Enfin, une bonne majorité, je pense. Et puis, c'est vraiment un parler moi je dirais poétique.
Oui, oui.
Ça me fait l'effet de quelqu'un qui s'adresserait aux gens en parlant en alexandrin. Hein.
En alexandrin, non.
Pour donner un... Oui, voilà.
Oui, oui. Non, il faut dire que je reste d'abord viscéralement attaché à la forme romanesque, au roman. Et le poème chez moi, en tout cas la poésie, n'est qu'une sorte d'intention, précisément. N'est pas une intention, précisément. C'est-à-dire que la poésie, je veux dire, s'informe, s'impose comme une sorte de... s'impose comme un style. C'est-à-dire que le texte, il est appréhendé tel quel. On a l'impression qu'il s'agit de poème, d'une forme en tout cas poétique, mais ce n'est pas l'intention du romancier, ce n'est pas l'intention de l'écrivain. C'est l'intention, je veux dire, c'est la forme, c'est le livre qui impose finalement à l'écrivain d'écrire comme cela. C'est l'histoire, c'est l'univers, c'est le personnage qui écrit comme ça, qui impose le romancier. Donc la poésie s'impose, on peut l'apercevoir comme telle, mais ce n'est pas une poésie, c'est une poésie, comment dire ça, c'est vraiment l'expression, c'est une expression, vraiment, c'est vraiment le mot, c'est l'expression, c'est le reflet même des tourments, du vertige, c'est le reflet de la confusion, du marasme dans lequel se trouve le personnage.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver les coups ? En librairie ?
Les coups étaient en librairie, mais je dirais qu'il a été victime de son succès ou de son insuccès. Il n'y en a plus.
Le livre... ça, c'est la marque des bons auteurs. Ben, ils sont toujours en rupture de leur stock.
En rupture, il a été épuisé.
Et K-Édition, donc c'est une maison d'édition que tu as créée, que tu as fondée.
Voilà, c'est ça. Donc, elle date de 2004 précisément. Et donc au départ, je m'auto-éditais. Mmh. Et entre-temps, K-Édition s'agrandit, puisqu'aujourd'hui, j'édite d'autres personnes, d'autres écrivains, notamment en langue créole, mais également en langue française. Mmh. Dernièrement, le dernier ouvrage paru, c'est celui de Daniel Buchmann, qui s'intitule, c'est une pièce de théâtre, L'homme endormi, mmh. Et de nouveau, La bête immonde, que je vous conseille de lire, parce que c'est une très bonne pièce qui traite de l'actualité.
Alors moi je vous conseille de lire Les Coups, mais alors quand il sera disponible à nouveau, hein, quand le K-Édition va certainement le rééditer.
Le rééditer, oui, c'est un projet.
Si le vocabulaire vous fait peur, il y a un glossaire assez complet, donc n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau.
Oui, je vais préciser quelque chose, c'est que ce livre a été traduit en français, et bizarrement, la traduction en français est totalement classique.
Tu as fait la traduction.
Oui, oui, il y a une traduction en français et ça donne une langue traditionnelle, classique, quoi. En français, je veux dire. Alors qu'en créole, on a affaire à un texte.
Donc tu n'as pas édité la traduction. Elle ne te plaisait pas. Et pourtant, c'est toi qui l'as faite.
Elle me plaît.
Oui, mais la langue française ne rendait pas.
Voilà, exact. C'est-à-dire que je trouve que déjà le titre. Le titre en français, c'est Dédale, mais pour moi, il est bien imparfait, il ne traduit pas précisément. Mm-hmm. J'aurais pu l'appeler Nausée, mais ça a déjà été fait. J'aurais pu l'appeler La Chute, ça a déjà été fait. Et j'avais proposé également Désordre et Confusion dans La Chute, mais un de mes amis...
a dit que c'était compliqué.
Dit que c'était trop compliqué. Par conséquent,
Vertige, mais je suppose que... et puis, je pense qu'il y a déjà eu au moins un roman dans l'histoire de la littérature qui s'appelle comme
Vertige,
ça.
Voilà. J'avais pensé également à Martinican Psycho, mais ça ne passe pas non plus. Donc, non. Je pense que ça va rester dans mes tiroirs, la traduction française. On va la proposer, en tout cas, une édition française. En tout cas.
Bien. Eh bien, j'espère que ce sera disponible, donc, parce que c'est une aventure, une plongée dans la langue créole que je vous conseille de faire. Ayez le courage de le faire, surtout si vous êtes lecteur de créole, c'est un peu aussi une manière d'encourager les écrivains qui en ont fichtrement besoin pour exister. Ils ont besoin d'être lus et qu'on fasse l'effort d'aller chercher. En plus, le livre ne coûte pas cher, hein, 16 €, c'est à la portée de toutes les bourses. Alors, tu m'as parlé un peu d'un projet de... Dis-nous en plus.
Ben
Slam.
Slam ou je dirais plutôt slam, mais je dirais plutôt également toast.
Slam, toast.
Chat, lyrics.
Oui.
On voit bien le rapport, la relation avec la musique, en particulier les musiques urbaines actuelles, le raga, le dancehall, mm-hmm. et puis bien sûr le slam, hein, notamment Grand Corps Malade, etc. Oui, c'est-à-dire que, toujours en créole, j'ai l'intention, c'est-à-dire que je vais publier bientôt un autre livre en créole, un autre roman cette fois-ci, non pas un récit philosophique mais un roman, je dirais précisément une sorte de thriller, quoi, de thriller, un peu comme le roman américain ou les films américains plutôt.
Donc un scoop pour Campus FM.
Un scoop, le prochain, la sortie bientôt, prochainement du prochain livre en créole. Quoi.
Le titre et déjà
c'est Coup de Quilon. Voilà, Coup de Quilon, voilà encore un titre qui va choquer. Et je précise...
Quel est le sens ?
Ce n'est pas un néologisme. Hein.
Quel est le sens ?
Coûte quilon veut dire coûte que coûte, à tout prix.
Coûte quilon.
Coûte quilon. C'est un terme qu'on retrouve dans des dictionnaires, notamment celui de Telchit, je crois, et de Poulet, il y est. On le retrouve également dans dictionnaire
Guadeloupe.
Guadeloupéen, mais également dans le dictionnaire qui est en ligne, le dictionnaire du créole du GIREC, mm-hmm. qu'on retrouve sous le site Nichtwell, Capescriol, etc. Donc, ce n'est pas un terme inventé. C'est un terme qui existe, très peu usité malheureusement, mais qui existe. Donc, plutôt que dire, bon, chers auditeurs, la prochaine fois, au lieu de dire à tout bruit, autant nous dire coup de quilon. Et puis, bon, on va s'y habituer à la longue, quoi, précisément.
Et donc, ce sera un roman.
Oui, c'est un roman.
Alors, le rapport au slam.
Oui, le rapport au slam, c'est-à-dire que c'est un roman qui s'inscrit encore une fois dans une modernité, dans une société très moderne. Et en ce sens, ce n'est pas un roman réaliste. Je dirais que c'est un roman d'anticipation. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est de l'anticipation. L'action se déroule dans les années 2010 en Martinique. Et... comment dire ça, où je présente en fait deux personnages sans trop, un homme d'une quinquagénaire et puis un jeune homme d'une vingtaine d'années et leur relation en fait, mais je n'en dirai pas plus.
Eh bien si, dis-nous en plus peut-être un petit exemple.
Donc en fait, il sera
un petit extrait.
Il sera déroutant sans doute également pour les lecteurs. Pourquoi ? Parce que là, encore une fois, j'essaye, c'est le rythme qui prévaut. On est dans la scansion, on est dans la phrase hachée, on est dans un rythme syncopé. Ce n'est plus la phrase. Il faut perdre les habitudes anciennes de lecture et puis rentrer peut-être dans un style un peu plus qui se rapproche plus du dancehall et du slam précisément puisqu'on en parle aujourd'hui quoi. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait. J'essaierai de le lire comme il faut. Donc je précise également que j'utilise beaucoup les pointillés. Hein. Donc mm-hmm. les phrases. Caso Kamaché, la riz géométrique. Rien qu'il arrête lui l'autre cajouenne, bout en bout de semblé, face plate. Et puis à sous toute l'onjeyo, qu'a délongé, ou qu'a garé, ou ga, nan blemblem l'an huit là, maçon nan chai, HLM l'andial, la pote ek finette, pavriage, rideau fait qu'a couvé, femme yo qu'a femme, pack en pack, côté chambot en montant, j'ai mis yo qu'a défendre sortie, manawa qu'a pimpé, pas esprit, wall yo qu'a fait wall, joui comédioni, ciel payé en vérité, toche l'argent, font poche pratique, léa en délala. Limier, c'est l'ampadea, veille à dos en colocor, brisquant mes frettes, néon campé, blanc, jaune, blé, rouge, vête, toute couleur, rati violette, combat rouge, qu'a flashé, clin d'indin, qu'a cabinet, zobel lazet, tout longalé, la djaye au kamene, au pli major, mastoc, assassinez, van yo ka van à la voirie, eve belle femme pouvevé, à sous catafal, pano, panje, griendant, pangal, qu'a fait roll, fête et founi, tout ni, loto, yen ki loto, qui fait l'autoroute là, contre toute la route, la rie et clariel, en chine, fait plastique, ka odichou, sans bout, sans commencement, enragé, ka connaît, sans rété, trafic calmaçon de malocoy, désagalas, désagrément. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien réussi à transcrire.
Je pense que oui, parce que je suis assez estomaqué. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça me fait immédiatement penser au travail qu'a fait William S. Burroughs sur la langue américaine avec ses romans comme Nova Express, La Machine Molle, Le Festin Nu, et ses cuts. Donc, je trouve ça absolument passionnant. Et puis, c'est très intéressant musicalement, rythmiquement. Effectivement, le rapport au slam, il est immédiat. Alors encore un gros travail, parce qu'on n'écrit pas comme cela naturellement.
C'est ça.
C'est vraiment un travail d'écrivain, un travail d'écriture.
Voilà, ça a été un travail. Bien sûr, bon, il y a toujours des influences, j'ai des modèles. Je suis un amoureux fou du cinéma, j'adore le cinéma, c'est vraiment le cas de le dire. Et en particulier certains films, je pense en particulier à Las Vegas Parano. Et le rythme de Las Vegas Parano,
oui,
c'est quelque chose.
C'était très spécial.
Mais je pense également à Trainspotting,
oui,
qui raconte l'univers des craqués, mm-hmm, etc., des drogués. Un film anglais, le cinéma anglais, c'est également, j'aime beaucoup. Donc, je disais le cinéma, la musique, mais également la littérature américaine dont tu me parlais. Donc, tout ça. Ça m'a influencé et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut proposer, notamment en contrepoint des musiques urbaines, une littérature d'expression créole qui soit un peu le reflet de cette société-là, précisément. Une société, je dis bien, rapide. On est aujourd'hui dans la vitesse. Tout va vite. On n'a plus le temps de souffler. C'est le stress. C'est les véhicules à 100 à l'heure, c'est l'autoroute, c'est la musique rapide, on est dans la vitesse, quoi, dans le siècle de vitesse précisément. Donc je pense que la littérature également doit être le reflet de tout ça. D'où l'utilisation des trois points de suspension, des phrases, il n'y a plus de virgule, vraiment, en tout cas très peu de virgule, le point virgule a disparu, on est dans le rythme du souffle, précisément c'est cela, quoi. J'espère que le lecteur, en tout cas, avisé ou pas, peu importe, en tout cas, il va y trouver son bonheur. Et puis, voilà.
Ben, je l'espère aussi. En tout cas, je souhaite une bonne chance à ce roman. Nous avons pratiquement terminé l'émission. En tout cas, je suis vraiment très content d'avoir reçu Jean-Marc Rosier. Donc, Lélécou, achetez Lélécou. Et puis, parce que on a besoin de gens qui explorent, qui inventent. Finalement, c'est ça l'écriture. C'est dans ce sens-là qu'on peut écrire des romans et être un poète, parce que le poète, il invente le monde. Il le décrit, mais il l'invente au fur et à mesure qu'il le décrit. Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, jeudi, 17-18 heures, pour une rencontre avec un poète de chez nous. Et puis, passez en attendant une très bonne semaine. Et nous allons terminer avec une musique de ton choix.